C'est pas évident de préparer une homélie quand il y a des textes aussi beaux, aussi riches, et que je me disais, mais il faudrait presque s'arrêter sur chacun. Même le psaume et ces textes, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui ? Ils nous invitent à une immense espérance. Une immense espérance, l'espérance pascale, qui peut peut-être être résumée par cette phrase de la première lecture du livre d'Isaïe, qui dit « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. » Pour le peuple juif du livre d'Isaïe, c'est l'exil auquel Dieu fait mémoire, l'humiliation du peuple qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu la foi. Et Isaïe continue « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Le désert, vous le savez, c'est l'image du carême, lieu de l'épreuve, de la tentation, de la sécheresse et parfois de la sécheresse spirituelle. Et Dieu nous dit au cœur de notre carême aujourd'hui, « Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides de vos vies. Je fais quelque chose de nouveau en ce moment, en ce carême, dans ta vie, dans vos vies, dans mon Église, dans ce monde. » Dans le livre de l'Apocalypse, il dira même « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Voilà. Accueillir aujourd'hui la nouveauté de Dieu au cœur de notre carême. Dans 2 semaines, nous fêterons la nouveauté des nouveautés, la résurrection de Jésus, la mort traversée qui donne la vie. Les fleuves de vie divine irriguent les humanités desséchées d'amour. De la mort va jaillir la vie éternelle. Et Dieu est en train de faire germer cela maintenant. Le vois-tu ? Le sentez-vous ? Dans vos vies et dans vos cœurs ? Alors oui, la question qui peut-être nous est posée ce matin est celle-ci. Perçois-tu ce que le Seigneur est en train de faire de neuf dans ta vie ? Est-ce que ce carême aiguise ton regard pour voir et pour croire que le Seigneur vient te ressusciter ? Un obstacle à cela, c'est qu'on a du mal à croire que c'est possible. Pour les autres peut-être, mais pas pour moi. On dit souvent, et hier encore, qu'ici on accueille, les frères accueillent des personnes qui ont des soucis. C'est bien, à Saint-Antoine, vous pouvez accueillir tous ceux qui ont des soucis. C'est vrai pour une part. Mais de plus en plus, je rectifie cela en disant, et pour témoigner, qu'il y a aussi bien des personnes qui viennent ici parce qu'elles découvrent dans leur vie quelque chose de neuf et qu'elles ont besoin d'être confirmées, rassurées dans cette expérience de résurrection. Car Dieu nous surprend toujours, et quand il arrive, eh bien, il y a quelque chose que des fois on dit non, c'est pas possible, pas pour moi. Hier encore, avec le Père Christophe, on était là, on attendait les confirmants, les groupes qui venaient se confesser, et puis une dame est venue, un peu étonnante, et qui nous dit, voilà, il se passe quelque chose dans ma vie, je suis pleine de lumière, puis je suis sûr que c'est le Seigneur, mais je ne sais pas prier, et puis voilà. Ça arrive souvent. Une femme peut être assez pauvre dans son humanité, donc peut-être plus capable que nous, des fois, de laisser Dieu la rejoindre. Mais cette interrogation qui était aussi la sienne, et comme toujours, pourquoi ça m'arrive à moi ? Mais parce que ça peut arriver à tous. À vous, à moi. Pourquoi pas à moi ? Alors, qu'est-ce que cette nouveauté peut faire advenir pour moi en cette fin de carême ? Sachant qu'elle est toujours très personnelle à chacun. Et c'est ça qu'on a du mal à croire et à voir. La première chose, en regardant ces textes, je me dis, c'est qu'il nous faut vraiment sortir de la foi qui est la nôtre, parce que c'est une croyance que nous avons en tête, que c'est nous qui allons nous sauver nous-mêmes. Non pas ma justice à moi, disait Paul, mais la justice de la foi au Christ. Peut-être certains parmi nous connaissent-ils presque cette fin de carême, cette tristesse ou cette crainte de se dire « j'en ai pas fait assez, j'ai raté mon carême, j'ai pas tenu mes résolutions, je ne mérite pas de connaître la joie de Pâques ». Ça nous habite, ça. Je ne serai jamais prêt à Pâques. Eh bien, vous savez, c'est justement cela, une des finalités du carême, de nous faire découvrir notre finitude, qu'on n'y arrivera pas tout seul et qu'on ne se sauvera pas tout seul. Eh bien, tant mieux si je me dis que j'ai raté mon carême, parce que je suis assez pauvre à ce moment-là pour croire qu'un autre va faire le travail que moi je n'ai pas su faire. C'est ça l'enjeu, pour que la grâce de Dieu prenne le pas sur les actions par lesquelles je crois pouvoir me sauver moi-même. Comme dit Paul, en Jésus, être reconnu juste, non pas de la justice de la loi de Moïse, qui croyait que, voilà, en faisant bien les choses, ça allait bien se passer, mais dans la foi, celle qui vient de la foi au Christ. Croire que c'est lui, sa présence, à ma vie, dans mon cœur, qui vient vraiment me sauver. Pas par mes actes, pas par mes bonnes actions. Ça nous demande de lâcher prise aujourd'hui. De me dire, si je pense avoir raté quelque chose, eh bien, tant mieux. Seigneur, je le regarde en face et je te l'offre. Et puis fais ton travail de sauveur. Fais ton travail de sauveur. Seigneur Jésus, toi seul peux me sauver. Un deuxième point peut-être, c'est une invitation en regardant cet évangile à sortir du cercle vicieux de la violence. On le voit si vous avez écouté le texte, hein, Jésus est là et on lui amène une femme qui a péché et les scribes et les pharisiens se mettent autour et ils encerclent et la femme et Jésus. Et ce qui fait que Jésus, autant que la femme, est dans une position, une posture très délicate et même dangereuse, puisque d'ailleurs, il nous est dit que s'il vient lui poser une question, c'est pour pouvoir le condamner. Donc Jésus est cerné. Mais ce qui est grave aussi, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'en encerclant Jésus, en le cernant, eh bien, ils s'enferment dans leur mentalité, quelque part, et ils se condamnent eux-mêmes. Ils se condamnent eux-mêmes dans leur propre jugement mortifère et les réflexes criminels qui sont les leurs. Dans nos vies, il y a beaucoup d'enfermement, d'encerclement. Voilà, chacun de se poser la question. Cette femme, en tout cas, elle est encerclée, elle est sur une voie sans issue, enfermée dans les jugements sans appel des hommes de religion qui l'entourent, des enfermements qui deviennent un enfer. Ces hommes sont aussi enfermés dans leur cercle psychologique. Il y a aussi les enfermements de la culpabilité et de la honte qui nous empêchent de respirer, d'être nous-mêmes. Mais Jésus vient là qui offre un pardon, et par ce pardon, offre un avenir. Cette fin de carême est donc peut-être une occasion de nous demander, voilà, qu'est-ce qui nous encercle, qu'est-ce qui m'encercle, qu'est-ce qui m'empêche de vivre bien? Et puis c'est peut-être l'occasion de sortir des conflits et des divisions que nous voyons dans cet évangile, où il y aurait les bons et les méchants, les purs et les impurs, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui jugent et ceux qui sont jugés, les autres, ceux qui toujours se sentent victimes, et chacun de nous, voilà, on peut se situer là-dedans. Pour Jésus, il ne s'agit de juger personne. Dans son regard miséricordieux, tous les humains sont fragiles et forts à la fois. Tous sont pécheurs, tous pardonnés. Tous frères. et Jésus, nous le voyons dans ce texte, sauve les uns et les autres. La femme, les scribes et les pharisiens, en tout cas, ils le désirent. Ils les y invitent. Ils ne les renvoient pas dos à dos, comme nous aimons tant le faire. Ils ne les renvoient pas honteux, mais ils les espèrent main dans la main, réconciliés, fraternels. Car il nous faut peut-être... C'est l'année de la miséricorde. On a eu une super journée du pardon la semaine dernière à Saint-Martin. Mais qu'il est dur pourtant de se dire ce que résume cette scène de l'évangile d'aujourd'hui, le leitmotiv de l'évangile de Jean. Je ne suis pas venu pour juger les hommes, mais pour leur donner la vie. Non pas pour juger, mais pour sauver. Au début de la scène, nous avons vu Jésus assis dans le temple, en situation d'enseignant. Et puis les pharisiens le mettent en situation de juge. Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme ? Il est le seul assis, avec une autorité. Mais voilà qu'il va surprendre tout le monde. Il va faire éclater le cercle des évidences. Il se met à terre, par terre, comme il va le faire au moment de sa passion. Il ne les regarde pas. Il les laisse faire résonner cette accusation qu'il porte devant cette femme, qu'il ne condamne pas, lui. Il se baisse et du doigt, il écrit sur la terre, peu importe ce qu'il écrit. Ce silence est certainement destiné à laisser à chacun le soin de répondre. Est-ce que je peux juger ? Est-ce que je me juge ? Est-ce que mon jugement sur les autres me donne l'impression de me justifier ? Un seul peut me sauver, celui qui me pardonne. Aux uns et à l'autre, avec l'un et avec l'autre, Jésus veut faire un bout de chemin. Il n'exclut personne. Son silence est constructif. Il va faire découvrir aux pharisiens et aux scribes le vrai visage du Dieu de miséricorde. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Moment grave que la reconnaissance de son péché, mais moment de joie si ce péché nous conduit au pardon, à l'accueil de la miséricorde. Voilà, demandons la grâce au Seigneur d'accueillir justement la grâce de ce qu'il est en train de réaliser dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, voilà, dans ce carême et jusqu'au bout du carême, pour que nous puissions faire l'expérience profonde, voilà, de plonger en nous dans ce qu'il peut y avoir encore de ténèbres et d'obscurité, de honte et de culpabilité, de méchanceté peut-être. Mais c'est là qu'il vient nous rejoindre pour nous sauver.